Bienvenue sur Micro Standard.
Cabo la barre.
Pas de bazar.
Rien que des bavards.
Il y aura pas de lézard.
Juste quelques bobards.
Hasard.
Rancard.
Tard.
Zona.
Espoir.
Regard.
Trop tard.
Zanzibar.
Pas de bagarre.
Cabo la barre.
Zona.
Rancard.
Bazar.
Plouf! Nous voilà sous l'eau. Les yeux ronds, j'observe. Tiens, une paire de palmes. Les estivants sont arrivés. C'est la saison de la pêche à la crevette, à l'apéro. Des odeurs de crème solaire sur la plage et des virées en mer à la voile. C'est l'été. Micro Standard vous embarque en mer. À l'abordage, au sommaire de cette émission, un micro-trottoir de Mike et de Mick dans les rues de Morlaix, où vous découvrirez que le breton ne connaît pas tout de son environnement maritime. Puis, nous écouterons les souvenirs de Mike en mer Adriatique lors de son service militaire. Mick nous racontera son expérience de marin d'eau douce dans les monts d'Arrée. Mick, pour son camembert orange, nous racontera l'histoire du tour du monde à la voile. Maria a choisi pour vous quelques pages pleines d'embrun pour des bouquins malins. Puis, discussion à bâton rompu sur le désastre des marées noires en Bretagne et dans le monde, avec Philippe. Nous accueillons dans notre fauteuil VIP Patrice Damani de l'association morlaisienne Vent d'Ouest. Puis, la page poétique au goût salé de Thierry. Et pour finir, laissons-nous aller à surfer sur la vague en suivant les explications de Steve. Nous essaierons de comprendre la formation des vagues. Vous verrez, c'est très simple.
C'est un fameux trois-mâts fin comme un oiseau.
Liceo Santillano.
18 400 tonneaux. Je suis fier d'y être matelot.
Tiens bon la vague et tiens bon le vent.
Liceo Santillano. Si Dieu veut toujours droit devant,
nous irons jusqu'à San Francisco.
Je pars pour de longs mois en laissant Margot.
Liceo Santillano.
D'y penser, j'avais le cœur gros
en doublant les feux de Saint-Malo.
Tiens bon la vague et tiens bon le vent.
Liceo Santillano.
Si Dieu veut toujours droit devant,
nous irons jusqu'à San Francisco.
Nos beatniks radiophoniques, Mike et Mick et Yvonique sont allés interroger les Morlaisiens sur leur connaissance du milieu marin. C'est l'heure du micro-trottoir de Micro Standard.
Pourquoi la mer est salée?
Parce que l'eau de mer, c'est salé. Ça a un goût de sel. Et j'aime bien me baigner dans la mer.
Bonne question. Je ne me suis jamais posé cette question. Franchement, non, j'en sais rien.
Alors ça,
on se la pose tous. Hein.
Voilà, c'est ça.
Ah, à mon avis, c'est parce qu'il y a du sel. Hein.
C'est. Ah, ça me paraît évident, effectivement.
Ça, je n'en sais rien.
Qu'on puisse bien y flotter quand on y nage.
Pourquoi la mer est salée? Parce qu'il y a du sel dans certains coins de la France. Et il y a la mer qui ramène, par exemple, les sels de Guérande.
Sur l'eau, sous l'eau ou sur la serviette?
Sur la serviette.
Oh, moi, c'est définitivement sur la serviette.
Sur l'eau, parce que j'ai pas mal d'amis qui naviguent aussi. Et quand il fait beau et quand je peux, sur la serviette aussi. Sur l'eau.
Sur l'eau.
Pour... Enfin, dans l'eau alors.
Dans
je
l'eau.
Préfère nager, moi.
Sur l'eau. Dans l'eau. Parce que tout, non. Non, non. Dedans, oui.
C'est important. Hein. Dans l'eau, et on mange
attention,
tous les poissons.
Attention, on va faire attention. Coups, ça, c'est...
Allons sur l'eau. Un peu trop.
Sur la serviette.
J'aime faire des balles au bord de la mer. Et j'aime pêcher.
Et comment ça s'appelle les plongeurs?
Sous l'eau. Et après, sur la serviette.
Poisson ou crustacé?
Crustacé.
Avec de la mayonnaise?
Non, sans.
Crustacé.
Et pourquoi?
Par amour.
Crustacé.
Pourquoi les crustacés?
Parce que je préfère, c'est tout.
Plutôt poisson.
Quel genre de poisson?
Tout ce qui est bar, lotte et beaucoup de saumon.
Souvenir de mer, Mike nous raconte ses aventures nautiques en Adriatique.
Je me souviens de ce jour de 1er juin. J'avais intégré la première compagnie à Ourthin. Je me souviens des heures passées sur le plus grand lac de France à faire de l'aviron. Je me souviens de mon transfert à Rochefort-sur-Mer et de la virée au bistrot des marins, le Marteau, la nuit. Je me souviens de la remise des diplômes où j'ai échangé le couvre-chef et opté pour le pompon rouge comme commis au Vivreux. Sur une corvette, petit bateau de guerre destiné à la lutte anti-sous-marine. Je me souviens de mon départ de Brest, la corvette sortant de l'arsenal, de la rade, et puis la mer à perte de vue. De grelotter sur le pont, malgré le caban et le béret noir des fusiliers marins. Je me souviens du Bidel, ou capitaine d'armes, si vous préférez, qui me présente au quartier Metchef Manu, de toutes ces marchandises sur des palettes, et surtout le travail que ça représentait pour tout ranger sur le bateau. Heureusement, le Bidel avait nommé des volontaires pour m'aider. Je me souviens de mon installation dans mes quartiers, le commissariat, le logement du personnel affecté, à la cuisine, aux messes des officiers, au réfectoire et au bureau de la Cobuse. Je me souviens de mon premier spectacle sur le pont, le soleil couchant qui formait le halo dégradé de jaune et de rouge sur les reflets d'argent sur la houle de la mer, d'écume à la mousse blanche coupée par la proue, de quelques éclaboussures bleues turquoise de la mer Adriatique. Je me souviens de ce jour, nous mouillons l'ancre au large des îles Dinariques. Je ne crois sur le pont que l'équipage préposé aux corvées. Je me souviens de la chaloupe qui descend avec moi à bord.
Je souriais en pensant aux assiettes de Leroy, avec de l'encre. Viande à droite, légumes à gauche. Je me souviens de souk et ferme, à contre-courant. L'accès au continent est très pénible, comme les récifs que nous devons éviter sous peine de couler. Je me souviens de notre arrivée sur le port de Dubrovnik, où j'attache les amarres parmi les barques de pêcheurs. Une majorité de l'Europe de l'Est dans la population, et pourtant nous sommes en Europe du Sud. Je me souviens des Spetsnaz ou commandos russes, si vous préférez, qui faisaient office de policiers et de douaniers. Je me souviens d'arriver au secteur privé, passer la commande de fruits et de vins, qu'il s'occupe également de la culture du blé et du maïs. Enfin, une perme. Je suis en galante compagnie sur le fleuve tumultueux, le Danube, à bord du Zodiac. C'était mon magnifique rêve bleu.
Mick nous ramène en terre bretonne pour une navigation inattendue.
Oui, alors en fait, moi, j'avais envie de vous raconter une petite expérience qui m'est arrivée dernièrement. Alors moi, en fait, moi, j'habite les Monts d'Arrée et à proximité du lac Saint-Michel, hein, qui est le plus grand lac en surface de Bretagne. J'allais tout bêtement faire un petit tour au lac à côté de chez moi. Et là, je rencontre un voisin qui venait de s'acheter un petit voilier et donc il ramenait son petit voilier à la terre et donc on échange quelques mots bien sûr et voilà qu'il me propose d'aller faire un tour sur ce lac près duquel j'ai grandi quoi. Alors bon ben la proposition était tellement tentante que j'ai dit oui bien sûr on a été faire ce petit tour qui était quand même assez grand sur le lac et voilà c'était en soirée au coucher de soleil par beau temps c'était un petit peu paradisiaque on va dire pour quelqu'un qui a grandi à cet endroit-là. C'était donc mon expérience de marin d'eau douce.
Pas de hasard, pas de cafard, restez sur Microstandard.
Camembert orange, la rubrique sportive de Mick.
Oui, alors bonjour à tous. Moi, en fait, à l'occasion de cette nouvelle émission sur le thème de la mer, je voulais vous conter une histoire du Tour du Monde à la voile. Alors, depuis qu'on sait que la Terre est ronde, on cherche le chemin le plus court pour se rendre aux Indes, hein, pour le commerce. C'est la période des grands navigateurs explorateurs en Europe, la période qu'on appelle les temps modernes. Alors deux dates importantes, la première, la plus connue, c'est l'arrivée de Christophe Colomb sur le continent américain, aux Caraïbes. Mais c'est qu'en 1520 que Magellan, le premier, fera le tour du monde en contournant le continent américain au Cap Horn, en laissant son nom au détroit, le détroit de Magellan. Alors bon, maintenant, les sportifs ont bien remplacé les explorateurs de l'époque dans la course autour du monde. Moi, je distinguerai deux épreuves. La première, c'est le trophée Jules Verne, créé en 1990, qui est une course en équipage et sans escale. Alors, le but premier de cette nouvelle course, c'était de passer la barre mythique des 80 jours évoquée par Jules Verne dans son roman Le Tour du Monde en 80 jours. Et c'est le skipper Bruno Perron qui, le premier, tombera en dessous de cette barre. Aujourd'hui, c'est son frère, Loïc Perron, qui détient le record en 45 jours. Alors, Jules Verne est vraiment pulvérisé. L'autre course que je distinguerais, c'est le Vendée Globe, qui est une course en solitaire, contrairement au trophée Jules Verne, et également sans escale. Donc le dernier vainqueur et recordman, c'est François Gabart qui, l'hiver dernier, gagnera le Vendée Globe en 78 jours. Alors, hors compétition, moi je voudrais tout de même évoquer ce que représente le Tour du Monde dans l'imaginaire collectif. Hein, pour beaucoup, c'est un fantasme que de réaliser ce périple dans une vie. Alors, pour illustrer cette quête du Tour du Monde, je voudrais évoquer l'exemple d'André Gentil, qui au milieu des années 90 a réalisé un Tour du Monde en 3 escales seulement et en solitaire. Et ce navigateur très gros roi restera comme étant le premier Finistérien à réaliser cette performance. Voilà, donc c'était donc l'histoire du Tour du Monde à la voile que je voulais vous raconter. Je vous dis à bientôt sur Micro Standard pour un nouveau Camembert Orange.
Bouquin malin, la rubrique littéraire de Maria.
Dans ma rubrique littéraire, 3 auteurs sont au programme pour vous faire rêver et découvrir la mer sur toutes ses facettes. D'abord, c'est en compagnie de Corto Maltese que nous allons voyager. Ensuite, le voyage se poursuivra au Glénan, un petit archipel paradisiaque au large de Concarneau. Pour finir, comment ne pas évoquer la mer sans parler du célèbre Édouard Corbière, considéré comme le père du roman maritime en France. Tout d'abord, intéressons-nous à Corto Maltese. C'est un marin, un voyageur, qui a été créé par Hugo Pratt en 1967. À mes yeux, c'est un personnage fascinant, totalement libre, sans attache. Il nous fait voyager dans les lieux les plus fascinants au monde. On compte 29 aventures, échelonnées de 1904 à 1925, dont les Helvétiques, que j'ai lues pour ma chronique. Corto Maltese reste ce personnage insaisissable, mystérieux, mais lucide. C'est ce qui le rend aussi attachant, je crois. Mon deuxième choix est plus léger, plus local aussi. Il s'agit de Coup de foudre au Glénan, roman paru en 2011 de Sophie Germain. Loïc veut faire connaître son pays à son amoureuse Violette, jeune étudiante parisienne. Celle-ci découvre alors avec passion cet univers extraordinaire des îles, de la plongée et de Nico. Après quelques mésaventures qui lui feront parcourir la côte de l'île Tudy à Port-Louis, l'amour donnera à sa vie une nouvelle direction bien plus exaltante que l'atmosphère feutrée des musées à laquelle elle se destinait. Terminons cette rubrique avec Édouard Corbière. Il n'est pas seulement le père de Tristan, le célèbre poète des Amours jaunes, c'est aussi à lui qu'on doit Le Négrier, paru en 1832. Le succès fut incontestable car il éveillait profondément la sensibilité de l'époque, révoltée par les drames et les excès provoqués par la traite des Noirs. C'est aussi une belle histoire d'amitié, de complicité entre deux marins amatelotés par hasard, l'Agadec Yvon, grossier, rude, brutal, et l'autre, Léonard, le mousse, gamin frêle. Ils se rencontrent sur un navire corsaire, l'ancien prend l'adolescent sous sa coupe, et ils partagent des années durant la vie de corsérien, faite de succès et de revers. Lorsque le tuteur meurt, le jeune homme est tout à fait armé pour devenir ce pour quoi tout le monde le croyait doué, le trafic d'ébène. Voilà, je vous souhaite une bonne lecture et à très vite sur nos ondes.
Come puoi essere verdad? Last night I dreamt of San Pedro, just like I never gone. I knew the song, the young girl with eyes like the desert.
maintenant, un sujet douloureux et polémique, les marées noires. C'est le coup de gueule de Micro-Standard.
Et on voulait pousser un coup de gueule sur les marées noires. Les marées noires en Bretagne, mais aussi les marées noires de façon générale dans le monde. Alors moi, le premier souvenir, je ne suis pas breton, donc je suis de la région parisienne, donc question marée noire, ça va, de ce côté-là, on n'a pas de problème. Par contre, ce qu'on avait comme problème, c'est quand on allait en vacances avec mes parents, ma sœur et mon frère, ben on était complètement subjugués par le fait de retrouver, par exemple, je dirais à Guidel, en VVF, des galettes de mazout sur les plages. Mais c'était vraiment, pour moi, pour nous qui étions citadins, c'était vraiment un désastre énorme. Alors je voudrais en parler, j'en parle, mais je voudrais aussi que ceux qui sont bretons, qui ont donc vécu ça, m'en parlent moi aussi. Alors Bertrand, toi, qu'est-ce que tu penses de ces problèmes-là, de marée noire, etc., toi qui es breton, toi qui as vécu tout ça en fait?
Moi, les souvenirs qui m'ont marqué, bon, c'est un peu ce que j'ai vu, c'est-à-dire les oiseaux complètement empêtrés et englués dans ce mazout. Et qui essayaient de s'en tirer, et puis qui ne s'en tiraient pas, même si tu essayais de les enlever du mazout d'abord, c'était tout un cirque, et de les nettoyer, au début c'était pas évident, personne ne savait trop comment les nettoyer. C'est plusieurs années après, plusieurs marées noires après, je crois, hein, là je te dis ça de souvenir, hein, pas de... C'est plusieurs donc marées noires après qu'il y a eu des cliniques, des gens qui ont commencé à se préoccuper,
à nettoyer les oiseaux. Je me rappelle avoir vu des images à la télévision.
Et donc, si j'ai des bons souvenirs, c'est aux sept îles qu'ils ont inauguré ces premiers essais, quoi. C'est comment dire après ça.
Faire un centre comme ça de lavage des oiseaux mazoutés, quoi.
Il y en a à l'île Grande, à Pleumeur-Bodou, qui est très connue. Enfin, il y en a d'autres, sans doute.
Oui, mais l'île Grande à Pleumeur, c'est à côté de...
Ça date de la marée noire.
Il y a aussi une entité à Océanopolis, à Brest, qui est spécialisée là-dedans pour dépolluer, en fait, tous les oiseaux... De nos plages, de notre océan et tout ça, qui sont englués de pétrole, et donc en fait ils sont spécialisés là-dedans, et même ceux qui sont blessés, ben ils essaient de les remettre en fonction, quoi, mais ils font ce qu'ils peuvent, mais bon, la majorité des oiseaux sont complètement englués dans toute cette pollution.
Ce qui sera intéressant, c'est de connaître le nombre d'oiseaux qui ont laissé leurs plumes. Quoi,
c'est le cas de dire. Moi, ce que je pense, c'est qu'il faudrait être beaucoup plus sévère pour les pétroliers qui dégazent en mer, et pour aussi faire en sorte que les pétroliers ne soient pas des poubelles navigantes sur les eaux. Et donc, il faudrait qu'à chaque marée noire, il faudrait qu'on fasse payer
les armateurs,
ceux qui font naviguer des pétroliers complètement hors d'usage. Mais ça, c'est évident, c'est l'évidence même. À chaque marée noire, c'est vérifier, on suit le pétrolier et on voit s'il dégaze en pleine mer ou quoi, parce qu'on a les moyens de le faire, ça. Et donc, ça serait efficace. Et puis aussi mettre des amendes excessivement fortes. Parce que c'est lamentable de voir ça, on détruit tout. Il y a Alexandre Vallée, là, ça a été une catastrophe énorme.
Les RICA pareil.
Oui, les RICA pareil aussi, oui.
Je suis d'accord de payer des amendes, moi, enfin, qu'on paye des amendes, mais c'est pas ça qui va nous ramener notre faune.
Bien sûr, c'est vrai, mais ça peut être dissuasif, si tu veux. Ça peut être dissuasif de faire payer très très cher le dégazage, etc.
Parce que les gens se disent ça paierait une partie des dégâts. Voilà. Bon, c'est pas une panacée,
Et puis de remettre en place des oiseaux qui, eux, ne sont pas été mazoutés et tout, pour refaire la faune et la flore, quoi.
C'est pas des employés de Total qui viennent nettoyer nos plages, c'est nous les bénévoles qui nettoyons nos plages à chaque marée noire. Et c'est pas normal.
Moi, je vous rejoindrai, Philippe, parce que pour moi, les marées noires, c'est un peu le phénomène de la marée de la cupidité humaine. Et c'est vrai qu'à laisser naviguer des bateaux qui qui sont vieux, qui sont mal entretenus, parce que ça coûte beaucoup d'argent d'entretenir un bateau, parce que ça coûte beaucoup d'argent d'avoir des équipages professionnels. Donc on a toutes les bonnes raisons financières et cupides de laisser naviguer des bateaux à risque.
Mmh. Toi, Mick, qu'est-ce que tu en penses ? Toi qui es breton, justement, et qui navigue sur Brennilis, le lac de Brennilis, où là, il n'y a pas de problème de pollution de pétrole.
Oh ben moi tout simplement en tant qu'amoureux de la nature, c'est vrai que je suis scandalisé par ces problèmes là. Bertrand parlait tout à l'heure de la faune. Bon, moi j'ai envie d'évoquer tout simplement l'homme dans tout ça. On peut plus aller à la plage sans trouver un morceau de goudron. Disons que les produits de la mer qu'on trouve dans nos assiettes, qu'on aime tant, ils sont pollués aussi. Et puis moi j'ai le souvenir de mon père qui fertilisait beaucoup son jardin avec du goémon qui en principe est excellent, mais s'il est pollué au pétrole, ça ne le fait plus, quoi.
Oui, donc moi je sais pas si on peut conclure là-dessus. Mais on a bien évoqué tous les problèmes, etc. Donc en fait, il reste qu'il faut plus que ça se reproduise. Parce que c'est vraiment lamentable de voir ça, quoi. Et je rejoins aussi ce que disait Yvonique, c'est la cupidité de l'homme, c'est l'homme vis-à-vis de son environnement et tout. Moi, avant, je trouvais que, par exemple, le mouvement Greenpeace était un peu, Greenpeace, c'est vraiment, ils ont raison, quoi, voilà. Avant, je pensais que c'était un peu des illuminés, mais je pense que là, vraiment, ils ont raison.
Fauteuil VIP, micro standard reçoit Patrice Domani de l'association Vent d'Ouest.
D'abord, pour commencer, je voulais savoir un peu les conditions d'admission dans votre association Vent d'Ouest.
On est une association qui permet à des personnes en situation de handicap, mais aussi à des personnes en situation d'exclusion, de faire du bateau. Et c'est ouvert vraiment à tout le monde, donc tous les publics un peu en situation de fragilité. Et d'autre part, donc l'accès, alors il y a deux accès possibles, c'est-à-dire soit c'est pour une sortie du bateau et ça c'est possible tout moment. Alors il y a quand même une condition, il faut être adhérent. Alors c'est soit la structure qui est adhérente, soit c'est une personne individuelle qui est adhérente. Il est possible de sortir à la journée ou à la demi-journée sur Brest, au week-end, à la semaine et bien plus encore, parce qu'on peut pour des séjours de 15 jours selon le cas. Et on sillonne toute la Bretagne Nord et l'Ouest Bretagne même. Et s'il y a des gens qui souhaitent être bénévoles, parce que c'est aussi un peu le cœur de notre action, tous ceux qui le souhaitent, de trouver une place dans un petit groupe, parce que justement, pour les uns, vous êtes dans la communication, pour d'autres on sera dans le nettoyage de bateaux ou l'entretien de bateaux, etc. Donc voilà, l'idée c'est on est un peu sur le principe de l'éducation populaire au sens vraiment premier du terme, c'est-à-dire on paye pas un service avec Vendouest pour faire une sortie. Ça, on peut le faire, mais il y a plein d'organismes qui font ça. Mais on est plutôt dans un échange de services. Le projet, c'est une sortie à la journée. Hein, quand on sort une journée, soit on se balade, soit on participe aussi. Tout le monde participe au fonctionnement de cette journée. Donc, pour que, en fait, tout le monde apporte quelque chose. Donc, c'est pas de l'idéologie. C'est juste une façon de faire participer chacun à un projet.
Combien on compte d'encadrants dans l'association ?
Alors, les encadrants, en fait, ce sont des chefs de bord, hein, donc ce qu'on appelle les skippers dans le milieu professionnel. On est à 17, entre 17 et 19 chefs de bord, entre Brest et Morlaix. Et donc, dans les chefs de bord, il y a des gens qui sont très réguliers, et puis il y en a d'autres qui viennent ponctuellement, parce que ça dépend de la disponibilité des uns et des autres, en fait.
Quel type de trajet vous effectuez ? Est-ce que c'est très loin, en dehors de la baie de Morlaix ?
Les projets, ou les sorties plutôt, ouais, varient, vraiment ça varie d'une sortie très courte qui est Morlaix-Lillebas, par exemple, à la journée, mais ça peut être également Morlaix-Labervrac ou bien Morlaix-Perros-Guirec, par exemple, ou ça peut être Morlaix-Guernesey aussi, ou Morlaix, le sud de l'Angleterre, la Cornouaille, le sud de l'Angleterre, les îles Scilly, etc. Mmh. Ça peut être ça, ou au départ de Brest, on peut très bien partir jusqu'au golfe du Morbihan, par exemple, selon le cas. Mais, encore une fois, les sorties sont un peu ponctuées en fonction de l'équipage, donc des conditions météo. Voilà, ça dépend de tout ça.
Est-ce qu'il est souvent arrivé qu'il y a des conflits en pleine mer ?
C'est une question intéressante parce que dans toute vie de groupe, il y a toujours des personnalités qui sont fortes ou qui émergent et qui ont besoin de se faire reconnaître, enfin d'être sur un bateau. On voit apparaître aussi mais ça va pas jusqu'au conflit, parce qu'on a souvent bien d'autres problèmes à régler sur un bateau, même si on est dans la promiscuité, hein, puisqu'on est jusqu'à 9 ou 10 à la journée sur un bateau avec des personnes, même si en effet il y a quelqu'un avec qui le courant passe pas, on va plutôt se préoccuper d'un certain nombre de choses, dont la manière dont on va se tenir par rapport à la mer, par exemple, hein, parce que quand on sort, on n'est pas sûr que ça tienne le coup au niveau de l'estomac, par exemple. Les bateaux de Vendouest, j'ai oublié de préciser, ce sont deux bateaux contemporains en plastique. Donc c'est des bateaux qui font 11,50 m. Ce sont des croiseurs, des bateaux qui sont taillés pour faire de la croisière, hein, donc très très habitable. Hein. Il y a 10 couchettes à bord. Mais on part plutôt à 8 maximum. Mais c'est très, très, très confortable et très, très spacieux.
C'est pas l'homme qui prend la mer, c'est la mer qui prend l'homme. Ta-ta-tin, moi la mer, elle m'a pris, je me souviens, un mordi. J'ai troqué mes Santiago et mon cuir un peu zone contre une paire de Dockside et un vieux ciré jaune. J'ai déserté les crasses qui me disaient « sois prudent ». La mer c'est dégueulasse, les poissons baissent dedans. Dès que le vent soufflera, je repartira. Dès que les vents tourneront, nous nous en allerons. C'est pas l'homme qui prend la mer, c'est la mer qui prend l'homme. Moi la mer, elle m'a pris au dépourvu, tant pis. J'ai eu si mal au cœur sur la mer en furie. J'ai vomi mon 4 heures et mon minuit aussi. Je me suis cogné partout, j'ai dormi dans des draps mouillés. Ça m'a coûté des sous, c'est de la plaisance. C'est le pied, dès que le vent soufflera, je repartira. Dès que les vents tourneront, nous nous en allerons.
Oh, 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 oh,
la mer, c'est la mer qui prend l'homme, mais elle prend pas la femme qui préfère la campagne. La mienne m'attend au bord, au bout de la jetée, l'horizon est bien mort dans ses yeux délavés. Assise sur une bite d'amarrage, elle pleure, son homme qui la quitte. La mer c'est son malheur, dès que le vent soufflera, je repartira. Et que les vents tourneront, nous nous en allerons. C'est pas l'homme qui prend la mer, c'est la mer qui prend l'homme. Moi la mer elle m'a pris, comme on prend un taxi. Je ferai le tour du monde, pour voir à chaque étape, si tous les gars du monde veulent bien me lâcher la grappe. J'irai aux quatre vents, foutre un peu le boxon. Jamais les océans n'oublieront mon prénom. Dès que le vent soufflera, je repartira.
Poursuivons avec Patrice Damani pour l'association Vent d'Ouest. Est-ce que vous accueillez aussi des handicapés physiques?
C'est une bonne question parce que on a commencé avec le handicap mental, la déficience mentale, il y a 13 ans qu'on existe. À mesure du temps, il y a différents publics qui sont arrivés, qu'on a sollicités, à qui on a proposé de nous rejoindre. Et puis, on avait toujours ces publics de personnes en situation de handicap physique ou à mobilité réduite surtout, qui posaient un peu des difficultés pour nous, parce qu'on n'avait pas les bateaux adaptés. On n'a toujours pas les bateaux adaptés, mais on travaille avec Nautisme en Finistère, mais également Handivoile Finistère et Handivoile Bretagne. Donc, ce sont des associations qui regroupent des personnes à mobilité réduite, donc en fauteuil souvent. Mais on a d'autres projets. Alors, un grand projet aussi dont je pourrais parler. Le lycée professionnel Jules Verne à Guingamp, c'est un lycée multifilière. Donc, sur les filières bois, composites, aluminium, électricité, électronique. Ils ont un projet d'établissement depuis 2010. Et ce projet d'établissement, en fait, c'est de fabriquer un bateau. Et donc, Vent d'Ouest serait un peu le porteur du projet dans sa continuité, en tous les cas, après le lycée professionnel de Guingamp.
Vent d'Ouest est soutenu, ou vous avez des subventions, ou est-ce que c'est les cotisations qui vous...
Alors, oui, alors on est une association en effet qui a assez peu de moyens. Toutefois, on a des bateaux qui sont des objets de travail qui ont un coût assez important, hein, et donc les coûts d'entretien et de fonctionnement qui nécessitent évidemment un budget. Et ce budget, en fait, on va le chercher alors auprès des adhésions, bien sûr. Il y a les adhésions individuelles et collectives. Mais également auprès des financeurs, les subventions, que sont les communes notamment, mais également les communautés qui nous financent assez bien. On a également la ville de Brest et également le département quand il s'agit d'investissement. Et sinon, il y a également les fondations qui nous aident à investir dans les bateaux. Et après, on a aussi un coût de séjour, hein, il y a un prix de séjour, donc quand on amène les personnes, puisqu'on est sur des séjours adaptés, hein, on fait du tourisme social avec des groupes, surtout en été. Alors.
Pas trop difficile de prendre la mer, vous donnez des conseils particuliers?
Oui, c'est vrai que quand la mer, c'est une totale inconnue, ça peut être... Ça peut être effrayant presque, ou en tous les cas, on peut avoir une certaine appréhension. Mais nous, en effet, d'abord, on est beaucoup passionnés par la mer, par les bateaux, les navigations. On est également souvent, pour la plupart d'entre nous, les bénévoles, beaucoup sommes des éducateurs ou des travailleurs sociaux. Travailleurs sociaux, au sens large du terme, on va dire ça comme ça. On n'est pas tous forcément... familiarisé avec la mer, ni marin, encore moins. Et nous, il y a deux choses. En effet, je disais qu'on était passionné par la mer, mais ça fait 13 ans qu'on est dans ce projet. C'est parce qu'on a aussi envie de transmettre notre passion, mais aussi pas seulement notre passion, parce que bon, c'est une chose, mais il y a aussi toutes les valeurs qui
camaraderie.
Voilà, toutes les valeurs qui tournent autour. Hein. Donc, en effet, la fraternité, enfin. l'amitié, la solidarité, l'entraide, bien sûr. Et puis, on a aussi envie de permettre aux gens, à certains moments, de trouver une place eh bien, sur le bateau. Quelquefois, on n'a pas notre place dans la société, parce qu'on est dans une société qui fabrique quand même beaucoup d'exclusions. Hein. On peut... Mais pour autant, on n'est pas non plus... on refait pas le monde, ce qu'on essaie de faire, en tout cas, c'est de faire en sorte que chacun d'entre nous trouve une place sur le bateau et sa place soit reconnue en tant que telle. En fait, on part sur l'idée qu'on est tous un maillon d'une chaîne, et cette chaîne, elle est solidaire, et il faut que cette chaîne également elle tienne, et donc chacun des maillons est indispensable, ou du moins est nécessaire. Ah, bon, c'est un peu de la philosophie, mais bon, c'est aussi un peu notre façon de voir les choses, notre approche.
Vent d'Ouest est une association loi 1901 pour laquelle une adhésion vous est demandée. On peut les joindre au 02 98 67 43 39 et en savoir plus sur leur site internet asso.ventdouest.org.
On a retrouvé le poète, le moment poétique de Thierry.
Toi qui navigues sur les flots, sur la mer il fait toujours beau. Au travers des vagues tu évolues, sur un petit rafio comme un merlu. Viens voir la Bretagne et ses aspects, vous allez en prendre plein les mirettes. Ça c'est sûr, c'est mieux que le net. La pièche à pied, vous connaissez? Cherchez des crabes sous les rochers, puis cuisinez ces crustacés. Au goût si tendre avec une mayonnaise, avec les fruits de mer l'on est à son aise. Malgré leur prix sur les marchés, on devrait tous plus en manger. Vogue, vogue, moussaillon, de Houlgate au Blos Saint-Blon, ton bateau c'est ta maison, tu navigues sur un galion, le pacha a toujours raison. À travers l'Atlantique, tu vas au Pacifique, jusqu'à l'Antarctique, en passant par l'Adriatique, la mer c'est fantastique. La mer et les marins, toi qui es un grand marin, tu avances sous les embruns, tu connais ton bateau par cœur, tu ne connais pas la peur. Vol, vol, petit oiseau, de mât en mât sur les bateaux, depuis tout petit, toi qui navigues, je connais par le cœur toutes ces digues, homards, crabes verts, araignées. Ah, qu'ils sont bons ces crustacés. Océan Atlantique, Méditerranée, venez à la mer où vous voulez, voir l'océan, les guémoniers, vous ne savez pas ce que vous ratez.
La mer on voit danser le long des golfes clairs, à des reflets d'argent la mer, des reflets changeants sous la pluie. La mer au ciel d'été confond ses blancs moutons.
Steve a plongé pour nous dans les rouleaux de la Bretagne à Hawaï pour comprendre ce qui fait marcher les vagues.
S'agissant de la vague, les définitions varient selon les dictionnaires, mais la majorité d'entre eux sont d'accord. Une vague est une masse d'eau de la mer, d'une rivière ou d'un lac qui est agitée et soulevée par une impulsion. Dans sa partie haute, elle comporte une crête. Entre deux parties hautes, c'est-à-dire entre deux crêtes, il y a un creux. Alors, pour comprendre le phénomène de formation des vagues, en évitant tout un vocabulaire barbare comme défraction, fraction, fetch, qui ne sont pas accessibles aux béotiens que je suis, il faut comprendre que au large de nos côtes se forme la houle. Et cette houle va déferler jusqu'à ce qu'elle rencontre un obstacle. C'est cette différence de puissance entre une vague déferlant sur l'île de Hawaï, où les fonds marins sont, par exemple, assez abrupts, très, très proches des côtes, forment des grosses vagues. Par exemple, une vague qui atteint... la côte bretonne, devant laquelle le plateau continental s'étend en pente douce sur plusieurs dizaines de kilomètres, ne formera pas de grosses vagues. En effet, au moment où la vague de grande longueur d'onde, donc à l'entrée vide, frappe la côte nord de Hawaï, la puissance de la vague est quasiment la même qu'en plein océan. Inversement, freinée par un fond remontant doucement, une vague de longueur d'onde identique sera considérablement moins forte en déferlant sur le rivage des plages bretonnes. Ces mêmes raisons expliquent que la puissance des vagues en Aquitaine, dans le golfe de Gascogne, plonge très profondément au ras des côtes, notamment au niveau de la fosse de Cap Breton. C'est pour ça qu'on a des vagues donc sur la côte atlantique chez nous en France et que nous n'en avons pas ailleurs, puisque, comme je viens de vous le dire, les fonds marins ne sont pas suffisamment abrupts pour qu'il y ait des vagues.
Pour les auditeurs qui voudraient connaître les prévisions de Hull, nous vous indiquons deux sites internet. Previmer.org et windguru.com. Un petit clin d'œil à nos amis les entonnoirs de Roubaix qui naviguent en mer du Nord.
J'ai honte quand elle descend. Je l'attends à marée basse. Elle est partie, hélas.
Ainsi s'achève notre émission sur la mer. En espérant vous avoir fait voyager, restez connectés avec MicroStandard sur le www.standard.org. A bientôt.
Cabo là-bas.
Pas de bazar.
Rien que des bavards.
Il n'y aura pas de lézard.
Juste quelques bobards.
Hasard.
Rancard.
Tard.
Zona.
Espoir.
Regard.
Trop tard.
Zanzibar.
Pas de bagarre.
Cabo là-bas.
Zona.
Rancard.
Bazar.